Journal de Magali Homo. Bonjour Magali.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin encore la bataille de Kiev qui se poursuit, Magali.
Une nouvelle nuit de combat, les sirènes ont retenti, poussant les habitants à se cacher dans les abris anti-bombes. Sous terre, les Ukrainiens tentent de retrouver un semblant de normalité. Reportage. De leur côté, les Occidentaux continuent d'adopter des sanctions. Plusieurs banques russes vont être exclues de la plateforme SWIFT. Emmanuel Macron en est convaincu, il est encore possible de faire plier Vladimir Poutine et de la dit hier lors d'un conseil de défense. Dans ce journal également, nous serons en Normandie, région touchée par les déserts médicaux. Pourtant, la commune de Bréauté résiste encore et toujours. Ils l'ont fait, les joueurs du 15 de France. Les Bleus ont battu l'Écosse hier lors de la troisième journée du tournoi des Six Nations. Vous entendrez la fierté du sélectionneur Fabien Galthié.
Et puis nos invités, à partir de 8h20, on reviendra sur les contours de cette guerre en Ukraine avec deux invités, la journaliste Isabelle Lasserre, elle est spécialiste de la diplomatie au Figaro, ancienne correspondante à Moscou. On en parlera aussi avec le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC.
France Inter.
Une nouvelle nuit de violence à Kiev, la capitale ukrainienne résiste. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
De la rédaction internationale de Radio France, les frappes russes continuent en ce quatrième jour d'offensive.
Ah oui, une fois de plus, Kiev a vécu au rythme des missiles qui sifflent, des explosions et des coups de feu. Dès hier soir, les habitants sont descendus dans l'abri de leur immeuble ou dans les sous-sols du métro, qui est à l'arrêt et sert de refuge à une grande partie de la population. Une petite fille, Mia, y est même née ce vendredi comme une étoile dans les ténèbres de la guerre. En surface, la capitale est une ville fantôme. Le couvre-feu est étendu jusqu'à lundi matin, 8h. Interdiction d'ici là de sortir sous peine d'être considéré comme un ennemi, un membre des unités de sabotage russes qui, selon les autorités ukrainiennes, se sont infiltrées en ville. L'armée régulière qui tente de verrouiller Kiev est encore en banlieue. Hier, elle a reçu du Kremlin l'ordre d'élargir son offensive dans toutes les directions. Au sud-ouest, un missile tombé sur un terminal pétrolier a provoqué un immense incendie. Et dans l'Est, près de Kharkiv, c'est un gazoduc qui a été endommagé. Les Russes, toutefois, ne contrôlent encore aucune ville. Et pour soutenir les forces ukrainiennes qui résistent, les Occidentaux intensifient leur aide militaire. Pays-Bas, République tchèque, Belgique fourniront du matériel. Même l'Allemagne, qui a toujours refusé d'exporter des armes létales en zone de conflit, rompt avec sa politique. Alors que Moscou ne donne aucun bilan sur ses pertes, le gouvernement ukrainien fait lui déjà état de plus de 1000 blessés et 198 morts civiles.
À Kiev. Merci Isabelle Labéry, où les habitants ont l'interdiction de mettre le nez dehors. Vous le disiez, ils ont pris l'habitude de se mettre aux abris dans le métro ou de trouver refuge dans l'un des 5000 abris anti-bombes que compte la ville. Ces bunkers qui datent de la guerre froide ont parfois été transformés en restaurants ou en bars. Nos envoyés spéciaux Gilles Gallinaro et Omar Waman ont passé la nuit dans l'un de ces endroits.
Bienvenue, de Buena Vista.
Depuis que Max a mis une annonce sur les réseaux sociaux pour dire que son bar disposait d'un abri anti-bombe, chaque nuit, une vingtaine de personnes viennent s'y réfugier.
C'est le meilleur abri de la ville, car c'est un abri moderne. Ce n'est pas comme celui du métro. Ce n'est pas le vieil abri soviétique sans toilettes, poussiéreux. Mon objectif, c'est de créer une atmosphère de la vie de tous les jours.
Et c'est exactement ce que l'on ressent, cette illusion de normalité alors que la ville est sous le feu des bombardements. Svetlana a aménagé un des recoins du sous-sol.
À la maison, on a de grandes baies vitrées et on a peur qu'elles soient soufflées par l'explosion d'une roquette. Si on a choisi cet endroit au lieu d'aller dans un abri officiel, c'est parce que dans le métro, par exemple, c'est bondé, il y a beaucoup trop de monde. Et puis le métro est loin d'ici, ce n'est pas pratique lorsque la sirène retentit.
Sviatoslav, son fils de 6 ans, joue au milieu des adultes et sous le regard du papa Raman.
On essaie de lui expliquer pourquoi les sirènes retentissent, mais il est un peu trop jeune, donc on essaie de le protéger, de ne pas parler de ce qui se passe. Mais il s'est bien adapté à l'endroit, donc ça va.
Rivés à leur téléphone, tous guettent les dernières informations et espèrent retrouver au plus vite une vie normale. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Et certains ont décidé de prendre la fuite. Les Nations Unies parlent de plus de 116 000 personnes, chiffre certainement sous-estimé. La Pologne fait-elle état d'au moins 115 000 Ukrainiens ayant franchi sa frontière. Les Occidentaux, de leur côté, continuent de mettre la pression sur Moscou. Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, entre autres, ont décidé hier soir d'exclure de nombreuses banques russes du réseau financier SWIFT. Emmanuel Macron a évoqué ce durcissement lors d'un conseil de défense. Simon Le Baron, l'Élysée a également décidé de sanctions et de nouvelles aides à l'Ukraine au niveau français.
Les avoirs financiers de plusieurs personnalités russes présentes en France vont être gelés. Ça, c'est pour les sanctions. Paris va aussi sévir contre la propagande de Moscou, avec dans le viseur notamment les médias Russia Today et Sputnik. Pour ce qui est de l'aide militaire, l'Élysée annonce la livraison de nouveaux équipements défensifs. Emmanuel Macron en reste convaincu, nous disent ses conseillers. Malgré l'intensification de l'offensive russe, il est encore possible de faire plier Vladimir Poutine. Le président français redoute désormais que le conflit s'étende en Moldavie, en Géorgie. Il a appelé hier ses homologues des deux pays pour les assurer de son soutien. Il s'est aussi entretenu dans la soirée avec le Biélorusse Loukachenko, vassal et complice de la Russie, selon Emmanuel Macron, qui exige le retrait des troupes russes du pays et s'inquiète d'un possible déploiement d'armement nucléaire par Moscou en Biélorussie. La guerre va durer, prévenait hier le chef de l'État. L'enjeu, explique l'Élysée, est de faire comprendre à Poutine qu'elle va lui coûter très cher.
Le premier ministre ukrainien dit sa reconnaissance. Nouveau rendez-vous aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent se parler par visio à 18h. Poutine assassin, Poutine terroriste, voilà ce qu'on pouvait entendre un peu partout en France. Hier à Strasbourg, notamment siège du Conseil de l'Europe, rassemblement de plus de 3000 personnes selon la préfecture.
Allez, on change de décor pour la suite de ce journal. On part en Normandie avec non pas un désert, mais un oasis médical.
À Bréauté, à moins d'une heure du Havre, 1400 habitants, son clocher, sa boulangerie, son café et surtout ses 17 soignants. Pas de désert médical ici, c'est même tout l'inverse. Anna Bounmazou-Carrère, vous êtes rendue sur place. La mairie doit même pousser les murs pour faire face à l'afflux de personnel de santé.
La première chose qui surprend en arrivant à Bréauté, c'est le nombre de professionnels de santé. Ils sont 17 à se partager les trois rues du village. Jean-Claude Malot, maire de la commune.
On a une sage-femme qui est arrivée, une ostéopathe, une psychomotricienne.
Parce que la force de Bréauté, c'est de laisser les clés du village aux soignants et surtout l'accès à ses plus beaux bâtiments, le presbytère, pour deux kinésithérapeutes, l'ancienne mairie pour une dentiste.
On était en compétition avec 3-4 autres communes, donc on a pu la décider, moyennant qu'on lui vende l'ancienne mairie, parce qu'elle aimait beaucoup le bâtiment et puis elle voyait des possibilités de développement dedans.
Et cette réussite passe aussi par la personnalité du docteur Émilie Roland, la seule généraliste de la commune et première arrivée des praticiens.
Je suis une vraie rurale, quoi. Moi, si je vois pas les vaches pendant une journée, je sens que ça va pas aller. Et oui, ça matche bien. Maintenant qu'on a les infirmières, elles ont un problème avec un pansement. Je sors de ma voiture pour arriver, elles me posent une question. Et puis voilà, je suis tout sauf toute seule, quoi.
Et la formule séduit les patients. Auparavant, Aline faisait 150 km pour les consultations de son fils.
Je lui dis, chouette, Bréauté, c'est pas très loin de chez moi, en fait. On est à 15 km de la maison. Sinon, on avait beaucoup de rendez-vous sur Le Havre ou Montilly.
Aujourd'hui, plus de 2000 personnes choisissent de se faire soigner à Bréauté. Face à une telle demande, la municipalité recherche un deuxième généraliste.
Anna Bounmazou, Carrère de France Bleu Normandie. Les soutiens à Emmanuel Macron se multiplient, même si le chef de l'État n'est toujours pas officiellement candidat. À la liste s'ajoute donc Jean-Pierre Chevènement. L'ancien ministre s'exprime dans les colonnes du JDD, même annonce dans les mêmes pages du même journal pour Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le 15 de France poursuit son objectif avec un grand chelem à portée de main.
Eux qui n'avaient battu l'Écosse à Murrayfield dans le tournoi depuis 2014, ont signé un succès magistral hier, victoire 36-17. Le sélectionneur Fabien Galthié était bien sûr satisfait de ses hommes. Deux ans après son arrivée, l'équipe de France grandit de match en match.
Dans le rugby international, il faut gagner les matchs. C'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on répète aux joueurs. On n'existe que si on gagne les matchs. Donc la priorité, c'est gagner les matchs. Même d'un point, il faut gagner. Donc chaque victoire, eh bien, elle est là, quoi. C'est une pierre que l'on pose sur le mur, qu'on cherche à construire depuis le début de ce mandat. Et chaque victoire, elle compte fortement. Je pense que l'apprentissage de ce qu'on a vu il y a deux ans nous a beaucoup servi aujourd'hui aussi.
La gagne avant tout pour Fabien Galthié, le 15 de France qui va pouvoir souffler un peu. Leur quatrième match, dernier déplacement du tournoi, aura lieu vendredi 11 mars à Cardiff face au Pays de Galles. Et puis un dernier mot de football, le PSG s'envole en tête de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a battu hier soir Saint-Étienne 3 buts à 1 en 26e journée. Une victoire signée Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive.
Et puis la victoire au Mexique, à Acapulco, de l'Espagnol Rafael Nadal. En tennis, dans le journal des sports, dans le journal tout court, de Magali Homo. Merci Magali, à tout à l'heure. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski, il y aura peu de changements par rapport à hier dans le ciel.
Oui, effectivement, avec un soleil toujours très vaillant sur la plus grande partie du pays. On remarquera tout de même un ciel souvent plus mitigé, d'aspect parfois maussade, de la Bretagne aux Pyrénées et sur la région PACA, puis également sur le golfe du Lion en fin de journée. Actuellement, on relève 14 degrés du côté de Biarritz, plus généralement 3 à 7 degrés sur les côtes, contre souvent 0 à moins 4 dans l'intérieur du pays. En journée, il est prévu 10 à 13 de la Manche au centre Val-de-Loire, du Grand Est à Rhône-Alpes, également sur la Corse, refroidi par un vent de secteur nord sensible. Il est prévu 15 à Marseille, 16 à Perpignan et Tarbes et 17 degrés à Bordeaux.
Jean-Michel Golinski, Météo France.